Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le confinement a été une période de réflexion pour beaucoup d'entre nous. Vous avez peut-être eu envie de déménager ou carrément de changer de vie. Pour accompagner cette réflexion, Code Source vous propose pendant ces vacances d'été 6 témoignages d'hommes et de femmes qui ont déjà franchi le pas au micro de Claudia Prolongeau. Aujourd'hui, Sandy, 41 ans, qui vit en Normandie, passionnée par les chevaux, elle a choisi d'en faire son métier.
Sandy travaille 100 heures par semaine, n'a pas de week-end et n'est pas encore sûre que financièrement, elle tiendra le coup. Mais elle a enfin la vie dont elle rêvait. Elle vient me chercher à la gare de Saint-Lô, en Normandie, et après 15 minutes de voiture, nous passons le panneau « Écurie de Losc » et entrons dans sa propriété de 8 hectares pour les chevaux et les autres animaux.
Là, il y en a 3 à moi et 3 que j'ai en pension.
À moi, j'ai un cheval et 2 poneys, 3 chevaux en pension, 3 biquettes, 6 poules, un jarunois, 2 chiens et une chienne, Raymond le chat, et c'est tout, je crois.
Et du coup, le matin,
nous nous installons sur la terrasse de sa belle maison en pierre, à côté de laquelle se trouve le gîte. Et elle me raconte son enfance lilloise, puis sa première vie.
Je ne me souviens pas de la première fois que je suis montée à cheval. J'ai commencé à monter à cheval, j'avais 10 ans. J'avais dû tanner mes parents pour qu'ils me payent des cours, mais c'était cher, alors c'était compliqué. Et très vite, j'avais réussi à trouver des petits plans B pour sortir les chevaux des copines ou gérer les chevaux des gens qui étaient en vacances. Donc j'avais trouvé plein de systèmes pour monter gratuitement et sans demander d'argent à mes parents. Et après, j'ai rencontré une jeune fille dont les parents lui avaient acheté un poney. Et elle ne savait pas le gérer du tout, elle ne s'en sortait pas, elle était trop petite et les parents n'étaient pas dedans. Donc je l'ai aidée et je l'ai toujours accompagnée. Et puis quand elle est devenue adolescente, le cheval, ça ne l'intéressait plus trop. Donc ils me l'ont donné. Il est mort à 26 ans d'un AVC sur mes genoux. Je l'aurais accompagné jusqu'à son dernier souffle et il aurait été là avec moi de ses 3 ans à ses 26 ans.
Sandy a grandi à Lille avec ses parents. Assez logiquement, au moment de choisir son orientation, elle souhaite faire des études qui l'amènent aux chevaux. Mais ses parents ne sont pas très enthousiastes.
Je voulais aller en pension à Genet, c'est une école agricole. Et mes parents m'avaient toujours dit, quand j'étais petite et que j'étais pas sage, « Tiens, en pension !» Et quand je leur ai dit, « Ben en fait, je voudrais y aller. » Là, ils m'ont dit, « Mais ça va pas, non ?» Ils n'ont pas voulu. Ma mère m'a dit, « Tu gagneras jamais ta vie, il est hors de question que tu fasses tes études là-dedans, garde ça en passion. » Et j'ai fait langue étrangère appliquée à la fac. Sans savoir quoi, j'étais bonne en langue, fallait que je continue l'école. Alors j'ai fait un truc que je savais faire. Et comme j'avais un climat familial assez tendu et compliqué, j'ai très vite pris mes clics, mes claques et je suis partie. Donc mon premier job, c'était chez Jennifer. Je vendais des fringues, c'était l'usine, c'était affreux. Et après je me suis fait embaucher chez Promode.
Sandy part ensuite quelques temps en Belgique, toujours pour Promode. Et quand elle rentre, elle travaille successivement pour Darty, Les Pages Jaunes, une banque où elle fait du recouvrement, et enfin, une compagnie d'assurance.
Salut Presley! Ça va Loulou?
J'ai fait 6 ou 7 ans de centre d'appel, et après je suis rentrée dans l'épargne patrimoniale. J'aimais bien mon boulot, j'aimais bien le côté où il fallait rechercher tout ce qui était anti-blanchiment, montage financier, montage fiscal. Tout ça, ça me plaisait vraiment. En fait, j'aime bien avoir mon cerveau qui travaille quand même. J'ai bien que ça fonctionne, et j'aimais vraiment ça.
Sandy n'abandonne pas pour autant sa passion du cheval. Après la mort de son poney, elle en achète un autre. Il vit dans un box pas très loin de chez elle. Et avec son mari et sa fille, elle s'en occupe tous les jours.
Il a été pas maltraité. Je pense que le marchand chez qui je l'ai acheté, il a dénutri pour qu'il soit calme et qu'il soit facilement vendable. Il avait été mal travaillé. Il y a eu plein de choses à faire. Il y avait beaucoup de bien-être à lui apporter pour gagner sa confiance, pour réussir à l'apaiser. Et je pense que c'est grâce à lui que je suis tombée dans le chemin dans lequel je suis maintenant. Tous les jours, je devais aller le monter pour qu'il sorte, qu'il bouge, qu'il s'active. Du coup, on a fait un peu de concours. J'ai vite voulu essayer de lui apporter un plus en confort. Et c'est pour lui que, du coup, j'ai commencé à acheter des bouquins sur les massages et que j'ai découvert que les massages existaient. Mon mari me disait toujours, t'as un truc dans les chevaux. Enfin, arrête ton boulot si ça te plaît plus ou si ça va pas, va dans les chevaux. Mais faire quoi dans les chevaux ? Enseignant ? Non, être enseignant, enfin, que ce soit dans l'équitation ou dans n'importe quelle autre discipline, c'est une vocation. On enseigne parce qu'on aime enseigner. Moi, c'est pas ma vocation du tout. Palefrenier, groom, bah non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Gérer une écurie, il faut avoir des terres. Bah, j'avais 150 mètres carrés de jardin, donc c'était un peu compliqué pour monter un club. Donc, il y avait rien qui se profilait à moi, rien, absolument rien à faire. J'ai fait un bilan de compétences. J'espérais qu'il me sorte des trucs. Enfin, je sais pas, qu'elle aurait un chapeau magique et qu'il y aurait quelque chose. Et on est retombé sur la même chose. Ben madame, votre vie, c'est peut-être pas celle sur laquelle vous vous éclatez le plus, mais dans le cheval, vous trouverez pas le... Parce que les bilans de compétences, ils prennent en compte nos besoins financiers pour garder notre stade, enfin notre mode de vie. Et pour gagner ce que je gagnais avant dans le cheval, c'était juste impossible, à moins de travailler, comme je fais maintenant, 100 jours de repos, enfin on travaille tout le temps. Mais là, pour quelqu'un, pour gagner un SMIC, c'était pas pour moi intelligible à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé à acheter mes bouquins de massage et c'est pour ça que j'ai commencé sur mon cheval à m'assouiller, à tripatouiller dans tous les sens mon cheval. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser sur la question et que j'ai cherché des formations et que je suis tombée dedans.
Sandy commence à masser son cheval et à constater que ça semble améliorer son comportement. Il est plus calme, plus doux, semble être en meilleure santé. Parallèlement, dans l'entreprise d'assurance où elle se trouve depuis 10 ans, elle se sent de plus en plus mal. Sa nouvelle supérieure, particulièrement dure, la pousse à bout pendant plusieurs mois.
Ses attaques étaient purement personnelles, jamais professionnelles, donc c'est ça qui fait que ça a vraiment fait mal, parce que quand on critique son travail, on se remet en cause, mais quand on critique sa personne en permanence, je m'effondrais en larmes. Et quand on me disait, mais pourquoi t'as pleuré ? Je sais pas, pourquoi elle m'a parlé de ma fille pendant mes entretiens de recadrage ? Enfin, ma fille avait rien à faire là-dedans. Des jugements à me parler de ma mère qui s'est suicidée. Pourquoi tu parles de ma mère ? Enfin, pareil, je me suis fait opérer. J'ai eu une tumeur cancéreuse juste avant. Je reprenais le boulot. Et une fois, j'ai demandé, je sais plus quoi, parce que j'avais trop mal au ventre et je me suis fait envoyer péter violemment. Fallait pas reprendre si t'étais pas prête. Jusqu'au bout, elle m'a pas lâchée. J'avais pris un petit arrêt d'une petite semaine et on avait des primes au résultat, enfin au bon travail, et les critères de primes, la moitié étaient plutôt subjectifs. Du coup, elle arrivait à monter le bourrichon des collègues, elle vient pas bosser, du coup, quand j'arrivais, il y avait une ambiance exécrable à chaque fois que je revenais. Et du coup, on s'écroule et à force de tenir, je voulais pas baisser les bras, je voulais pas. Et c'est quand ma copine, qui était une collègue, qui est une amie maintenant, et qui m'a dit, Sandy, non, tu peux plus là, c'est plus toi. T'es éteinte, tes yeux sont éteints, tu pleures 3 fois par jour, tu peux plus venir travailler, tu peux plus. Et c'est quand elle m'a chopée, je me souviens encore, on faisait le tour du bâtiment pendant notre pause pour marcher, prendre l'air, et on faisait le tour du bâtiment dehors. Et elle s'est arrêtée, elle m'a pris par les épaules, elle m'a dit, Sandy, ça va pas. Là, je me suis dit, ouais, ça va vraiment pas. Et là, ça a été l'électrochoc de se dire merde. Et après, ma mère était dépressive et ma mère s'est suicidée d'une dépression. Du coup, moi, dépressive, non. Moi, je suis plus forte. Moi, j'y arriverai. Et quand mon médecin m'a dit, il faut que tu ailles voir un psy. Ouais, mais je prendrai pas de traitement. Il m'a dit, c'est toi qui vois. Et le psy m'a dit, je vais vous mettre sous traitement. J'ai dit, non, je prendrai pas de traitement. Et au bout de 6 mois où je pleurais 28 fois par jour et qui m'a dit, je vous promets, c'est juste 3 mois. Mais ça va vous aider. Acceptez juste 3 mois. Et j'en pouvais tellement plus de pas dormir, de pleurer. Je me reconnaissais plus. J'allais sortir mon cheval parce qu'il fallait bien que je le sorte. Alors les autres disaient que j'étais pas malade vu que je sortais mon cheval, sauf qu'ils comprenaient pas que mon cheval était dans 3 mètres carrés et que je pouvais pas le punir et le laisser enfermé pendant 6 mois. Et je pouvais pas payer quelqu'un pour le sortir. En étant en arrêt, c'était compliqué. Donc j'allais sortir mon cheval tous les jours. Par contre, sortir son cheval, je montais plus. Je savais plus le monter parce que j'allais trop mal.
Les antidépresseurs se révèlent efficaces et au bout d'un an d'arrêt de travail, Sandy va mieux. La sécu l'appelle, lui dit qu'elle doit reprendre le boulot, et cette seule idée, un an après, la fait à nouveau fondre en larmes.
Je me sentais incapable, ne serait-ce que d'affronter ma chef, d'affronter le jugement de mes collègues, parce qu'ils m'ont tous pris pour un excès de fainéantise, ils n'ont pas compris que... Enfin, c'était un vrai craquage, j'étais vraiment mal. Ils m'ont tous jugée en pensant que c'était une crise de flemmardise et que je voulais pas travailler. Donc je voulais pas les affronter, je voulais pas affronter ma chef, je voulais pas... Même pour changer de service... J'aurais de toute façon eu cette étiquette-là qui m'aurait collé. Et voilà, je me sentais pas capable. Et mon mari m'a dit, bah écoute, si tu veux, on s'en va, on déménage. On va où? Bah, il me dit, en Normandie, c'est joli. Bah d'accord, en Normandie. Je pense que ce jour-là, nous n'avions pas les pieds sur terre. C'était du grand n'importe quoi. Je sais pas, enfin j'en sais rien, on n'a rien calculé. Des délires comme ça, on en a eu plein. Et pourquoi celui-là, on l'a fait? Je sais pas, j'en sais rien.
En quelques minutes, la décision est prise et la destination choisie. Nous sommes alors en novembre 2017. Le mari de Sandy trouve quelques semaines plus tard un emploi à Caen. Et en février, ils vendent leur maison en seulement 4 heures, puis trouvent celle qu'ils habitent aujourd'hui.
Quand on a passé le chemin ici en rentrant, on a fait « Waouh, non mais on peut pas se payer ça. Il y a un loup, c'est pas possible. » Et en fait, apparemment, ça faisait 2 ans que cette maison était en vente et qu'elle n'était pas vendue. Et les gens ont baissé le budget juste la veille. On s'est emballé, on est tombé amoureux du lieu, on a adoré ça. Bah alors on a fait plein d'erreurs, on n'a pas vu qu'il y avait des fuites partout, on n'a pas vu tout ce qui était cassé, on n'a pas vu l'état des champs. On avait des petits cœurs dans les yeux partout, on est tombé amoureux et on a dit roule. Enfin, on s'est imposé une nuit de réflexion et le lendemain matin, 9h, on était là, on signait le compromis de vente et 2 mois après, on était là.
L'objectif est alors de cumuler 3 activités pour Sandy. Le gîte, l'écurie pour garder en pension des chevaux appartenant à des gens qui ne peuvent pas les avoir chez eux, et les massages équins.
Le gîte était la seule partie de la maison qui est parfaitement aux normes, double vitrage, propre. Voilà, donc tout était dans un sale état, c'était pas entretenu du tout. Donc on a géré pour que les chevaux arrivent 3 semaines plus tard dans de bonnes conditions. Dès que les chevaux sont arrivés, on s'est attaqué au gîte parce qu'il fallait faire rentrer de l'argent. Donc on a retapé, enfin on a rafraîchi le gîte, on a meublé parce qu'il était vide. On a remeublé le gîte, on l'a mis à la location, c'est parti très très vite. Je crois qu'en un mois, c'était parti. Ça a été vraiment vite. Et moi, j'ai voulu lancer les massages. Quand je sentais le vent tourner, quand je travaillais dans les assurances, je voulais faire une formation pour me former sur les massages équins. Et plutôt qu'on te fait, comme j'ai pas à gérer que ça partirait si mal, si vite, j'ai pas pu le faire. Donc j'ai fait un prêt et je me suis payé ma première formation. Et donc le but à l'origine était de faire des massages juste le week-end pour mettre du beurre dans les épinards.
Pendant un an, Sandy essaye de se faire connaître et travaille à perte.
Il a fallu que je... D'abord, j'ai trouvé quelques pros qui ont bien voulu tester et me faire confiance. Comme ça, j'ai travaillé, j'ai offert des massages et pour qu'on goûte à mon travail, que les gens puissent parler de moi et dire si ce qu'elle fait, ça marche. Parce que dans ce que je fais, c'est pas un massage mode esthéticienne. Je détends et on fait un gros dodo. Mais je vais détendre tous les muscles du cheval, je travaille en énergétique, donc il y a un vrai effet positif au massage. Il a fallu que les gens le testent pour qu'on parle de moi. Donc il a fallu semer, les week-ends entiers au bord des terrains de concours pour qu'on me voie, qu'on parle de moi. Pour me faire connaître aussi, j'ai fait énormément d'événements ici. Ça a été un énorme travail de communication et j'ai collé l'image de mon écurie à l'image de moi en tant que masseuse. Et c'est comme ça que ça fait rentrer des clients et que les gens apprécient d'être ici.
Ça vous a pas fait peur de vous rendre compte de tout ce qu'il y avait à faire en fait?
Si. Plus d'une fois, j'ai dit on a fait une connerie. On n'y arrivera pas, on a fait une connerie. Après, on a été victime du succès du gîte plus vite que prévu. Donc on a eu plus vite de la rentrée d'argent avec le gîte. Donc on a pu réinvestir beaucoup. Mais l'investissement financier, il est énorme. Si on avait su, je pense qu'on ne l'aurait pas fait. Ou alors j'aurais voulu plus petit. Maintenant, avec le recul, je suis ravie d'avoir mes 8 hectares, même si c'est galère. Mais au moins, ça colle. Là, de me dire de faire vivre mes chevaux avec une vraie vie de cheval, et c'est génial, quoi.
Et comment est-ce qu'on masse un cheval ?
Je commence toujours aux oreilles à gauche et je fais tout le côté gauche et après tout le côté droit. Et on va aller chercher entre les espaces, entre les muscles pour aller chercher les muscles profonds. Enfin, c'est costaud. Alors au début, j'avais des crampes aux bras, des crampes aux pouces. J'ai eu des tendinites aux pouces aussi parce que j'y arrivais plus. Et maintenant, mon corps s'est musclé en fonction. Donc je peux faire 7 chevaux dans une journée, avoir les bras en l'air toute la journée. Ça me gêne pas. Maintenant, je sais faire.
En janvier 2020, Sandy a fait un très bon début d'année. Les demandes de massage pour les chevaux ne cessent de croître et son salaire aussi. Même si le coronavirus est passé par là et que, comme pour beaucoup, ça a été très difficile, depuis le mois de juin, les affaires sont reparties.
La reprise, elle était très attendue et très angoissante de se dire, enfin là, de toute façon, c'était le crash test, quoi, où je me relève et ben, c'est bon, où je me relève pas et j'arrêtais tout, et où on arrivait à remonter les comptes et puis on gardait la maison, où on la vendait, on partait. Et je ne sais pas, et voilà, et mon karma, il est bien là, parce que là, je reprends plus que jamais, je suis overbookée, je travaille super bien, je suis en train de booker août, mais septembre, rien n'est booké, donc en fait, j'avance, j'ai une visibilité sur un mois ou deux à l'avance, c'est tout, donc le côté angoissant, je l'ai en permanence.
Malgré cette angoisse qui perdure, Sandy est convaincue d'avoir gagné dans cette reconversion.
Depuis que je suis ici, j'ai pas vu un médecin, j'ai pas eu une grippe, une crève, un rhume, une migraine. Moi qui étais migraineuse avant, plus une migraine. J'ai plus rien. Et pour autant, je bosse dehors H24. Enfin, je passe des après-midi entières à désherber le dos courbé. Je n'ai rien. Je vais très bien. Je suis plus musclée, j'ai moins mal partout. Mon mari, c'est pareil, il travaille avec moi que le week-end, mais il avait des problèmes d'hernie, il avait plein de problèmes de dos, et depuis qu'il travaille à la maison, il s'est remusclé tout le corps, il a absolument plus mal au dos. Je regrette pas, c'est une autre vie, enfin, j'en vis pas, je regrette pas, c'était avant, c'est l'ordre des choses, voilà, je suis passée à autre chose. Je crois que ma vie a été une succession de tentatives. Pour à 40 ans trouver ma voie, il faut être hyper adaptable, il faut être hyper disponible. Et bah, il faut avoir foi en l'avenir. Je veux pas baisser les bras, enfin, je me suis donné trop de peine pour y arriver. Je peux pas me planter, je peux pas. Et je pourrais plus retourner dans un bureau, je serais trop malheureuse.
Claudia, pour vivre matériellement, Sandy est aidée par une chose, c'est qu'elle est salariée d'une coopérative.
Oui, en fait, elle pouvait faire le choix de devenir auto-entrepreneuse tout de suite, mais la coopérative, ça lui évite déjà beaucoup de paperasse, et puis ça lui permet, si les choses se passent mal, par exemple, d'être, comme elle est salariée, d'avoir des droits au chômage. Donc, c'est quelque chose qui coûte un peu cher, hein, c'est 30% de ses revenus, mais pour le moment, elle estime que c'est quand même une sécurité supplémentaire pour elle. Ça lui permet de ne pas se jeter tout de suite dans l'auto-entrepreneuriat qui peut faire un peu peur, et à l'avenir, elle verra si à un moment, ça ne devient pas plus intéressant effectivement de franchir ce cap-là et de devenir auto-entrepreneur.
La fille de Sandy a 9 ans, comment est-ce qu'elle a vécu ce changement de vie de ses parents et ce déménagement ?
Alors, elle l'a pas très bien vécu en fait. Sa fille a vraiment été impliquée dans tout. Donc, quand ils sont allés visiter les maisons, ils y sont allés avec elle. Ils lui ont vraiment donné le sentiment qu'elle faisait partie du projet, qu'elle avait un peu son mot à dire et tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'elle a eu, en arrivant dans son école, elle a eu du mal à s'intégrer. Au bout d'un an, Sandy s'est rendu compte qu'elle avait pas vraiment d'amis, ça allait pas. Elle disait souvent qu'elle avait envie de retourner à Lille. Enfin, ça allait pas. Et puis, en fait, ils l'ont changé d'école. Là, ça commence vraiment à aller mieux. Et aujourd'hui, elle dit quand on lui demande si elle veut aller à Lille, que non, finalement, elle préfère rester là où ils sont, dans la Manche. Donc, c'est très rassurant pour les parents, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile au début.
Merci, Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Stéphane Genest et Benjamin Boucriche. Réalisation, Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.